France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Léa Capuano, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano et Antoinette Benoît, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Marie-Claire Omabati. À 11h20, on retrouve la table ronde d'actualité co-animée avec Marc Semo, notre partenaire du Monde. Bonjour Marc.
Bonjour.
Une émission spéciale consacrée à l'avenir du reportage à l'international. Chaque vendredi, vous le savez, dans Culture Monde, des reporters nous font le récit de ce qu'ils ont vu et entendu sur le terrain. Eh bien, nous nous intéressons ce matin à leurs conditions de travail et à l'évolution de leur profession dans un monde où la liberté de la presse n'est jamais garantie. Comment documenter ce qui se passe dans des territoires interdits d'accès? Comment se protège-t-on face aux menaces d'arrestation et d'expulsion? Quels moyens les rédactions accordent-elles aux reportages de terrain? Nous en discuterons avec nos invités. Antoine Védeillé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, réalisateur et chef opérateur installé en Inde, lauréat du prix Albert Londres 2024 pour Philippines, les petits forçats de l'or diffusé sur Arte. À vos côtés, Clara Marchaud, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue également, vous êtes journaliste indépendante, correspondante en Ukraine. Vous travaillez notamment pour Le Figaro, L'Express et Mediapart. Un si long mois de février, histoire intime de la guerre en Ukraine, est paru aux éditions Plein Jour l'année dernière. Et enfin, un troisième invité ce matin, Antoine Bernard. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue également. Vous êtes directeur du plaidoyer de l'assistance de RSF, Reporters sans frontières. Le bilan 2024 est paru, de RSF est paru il y a quelques mois, en décembre dernier. Rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes. Et pour commencer, place au retour de terrain. Bonjour Margot Solinas.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, vous travaillez notamment pour Le Figaro, Marianne, Mediapart et le journal belge Le Vif, pour lesquels vous signez récemment de nombreux reportages dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo, près de la frontière avec le Rwanda. Le 30 janvier, le groupe rebelle du M23, soutenu par l'armée rwandaise, s'emparait de Goma, la capitale régionale. 15 jours plus tard, c'est Bukavu, la capitale du Sud, qui passait sous leur contrôle. Des avancées que les forces armées congolaises peinent à contenir. Et si l'on ne sait pas encore jusqu'où ira l'offensive du M23, on comprend à vous lire que le groupe a bien l'intention de conserver et même d'administrer les territoires conquis. Et peut-être pour commencer, Margot Solinas, pourriez-vous nous décrire la ville de Goma telle que vous la découvrez quelques jours après sa chute? Vous écrivez qu'elle ressemble à un gigantesque dépotoir militaire, c'est-à-dire...
Alors oui, le jour où je suis arrivée, alors c'était très particulier. Le premier jour où je suis rentrée dans Goma, c'était le jour du meeting de l'Alliance Fleuve Congo, donc la branche politico-militaire du M23. Et en fait, personne n'avait le droit de travailler. Donc les rues étaient vides et il y avait vraiment une tension. Il y avait donc des gens qui se baladaient dans les rues la matinée. Mais personne voulait nous adresser la parole. On essayait d'acheter des cartes SIM congolaises pour nos téléphones avec ma collègue. On n'arrivait pas à en trouver. Personne n'acceptait de nous les vendre parce qu'on nous disait non, on n'a pas le droit de travailler. On n'a pas le droit de travailler aujourd'hui. Il y a un meeting ce matin et jusqu'à 13h, on doit fermer boutique. Sinon, on sera puni. Donc ça, c'était les premières heures dans la ville de Goma. Donc une ambiance un petit peu étrange, un petit peu pesante. Et ensuite, on s'est rendu au meeting. Et là, c'était une ambiance très électrique. La ville de Goma, elle est grande. Il y a énormément d'habitants. Il y a aussi énormément de pauvreté dans la ville de Goma. Il y a plus de la moitié de la population qui vit avec moins $1 par jour. Et en fait, il y avait une ambiance dans tous les quartiers qu'on a visités particulière. C'est-à-dire que la plupart des habitants, une fois le meeting passé, donc quand les habitants avaient le droit de revenir à leur vie quotidienne, nous disaient qu'ils ressentaient une lassitude. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée d'une femme qui s'appelait Gracienne, qui m'a dit « La sécurité à l'Est, c'est une chanson ». donc qui montrait que à Goma il y a vraiment une lassitude des conflits et des combats qui durent depuis des années et que M23 pas M23, gouvernement congolais pas gouvernement congolais, au final ils en ont marre, il y a un ras-le-bol général et en fait ils veulent juste pouvoir être en paix et essayer de vivre leur quotidien comme ils peuvent.
La priorité, c'est la survie de beaucoup de gens que vous rencontrez, parce que la prise de la ville a coïncidé avec une grande déstructuration des moyens, des sources de revenus des habitants. Et donc, vous le racontiez, le jour de ce meeting, les gens n'avaient pas le droit de travailler parce qu'il fallait se rendre à ce meeting dans le stade de l'unité. Combien de personnes à peu près, à quoi ressemblait à peu près ce meeting et qu'est-ce qui s'y est dit à ce moment-là? Donc, vous le disiez, il a été organisé par l'AFC, c'est l'Alliance Fleuve Congo, la branche politique du M23 qui est dirigée par Corneille Nanga. Quels messages ont été passés lors de ce meeting aux habitants de Goma ce jour-là?
Alors, au meeting, l'ambiance était vraiment électrique, si je puis me permettre ce mot. La foule était vraiment en liesse et c'était très particulier parce que, évidemment, on pouvait pas savoir si la foule était en liesse parce qu'ils étaient forcés d'être là. On a eu donc des confirmations par témoignage, donc ils n'avaient pas le choix de se rendre au meeting sous peine de coups de fouet ou de punitions autres. Mais il y avait aussi des gens qui devaient être là par curiosité. J'ai parlé à des gens dans la foule qui étaient là par curiosité, par intérêt. Donc il y avait vraiment un mix et en fait il y avait, enfin la foule hurlait, scandait. Il y avait beaucoup de musique qui passait. Donc l'AFC essayait de mettre une ambiance de fête, si je puis dire, pour se présenter. Donc ce meeting était assez important pour l'AFC M23 parce qu'ils présentaient pour la première fois une administration provinciale. Donc en fait, ils expliquaient qu'ils avaient clairement l'intention de rester en mettant en place un gouverneur, un maire. Et c'était vraiment très particulier parce qu'ensuite, ils ont promis du travail à la population, et là vraiment c'est devenu vraiment très très électrique. Tout le monde, enfin les grilles sont tombées du stade, la population est passée sur la scène, il y avait toujours de la musique, tout le monde dansait, donc il y avait vraiment une ambiance à moitié festive et à moitié de crainte. On pouvait quand même sentir la crainte, et on a eu des témoignages de personnes qui nous disaient avoir peur, mais ne pas être venu pour essayer de se rassurer aussi.
Le M23 promet du travail, il promet de faire baisser le coût du dollar, il promet aussi de réouvrir les écoles. Et ces promesses, on sent au témoignage que vous recueillez que les gens ont du mal à y croire, notamment par exemple la question de la réouverture des écoles, alors qu'aujourd'hui, beaucoup d'écoles font office de centres d'accueil pour beaucoup de populations qui sont réfugiées, qui sont déplacées.
Oui, j'ai visité une école qui faisait office justement de camp de déplacés internes. C'était impossible. Il y avait plus de 220 foyers dans cette école qui étaient réfugiés et qui étaient là depuis, pour certains, 2 ans et demi. Mais en fait, quand je suis partie, ce qui a été différent, c'est que les camps ont été vidés de force par le M23. En fait, le M23 a voulu montrer que tout allait bien et que tout le monde pouvait rentrer chez soi, bon, ce qui est évidemment pas le cas. Les maisons étaient détruites dans la plupart des villes à côté de Goma. Je prends pour exemple Sake, où je me suis rendue. Il n'y avait plus rien, plus d'électricité, plus d'eau, plus de maisons. Les gens faisaient des allers-retours entre les camps de déplacés pour reconstruire leurs maisons qui avaient été détruites par des éclats d'obus, par des bombes. C'était une ville fantôme, si je puis dire. Et les gens étaient forcés de rentrer chez eux dans des conditions assez terribles. Donc, alors les écoles et les camps ont été vidés ces dernières semaines de force par le groupe armé.
L'offensive, elle a fait plus de 2000 morts d'après le bureau humanitaire de l'ONU sur place, plus de 2000 blessés également. Vous avez pu vous rendre aussi dans les hôpitaux qui se sont retrouvés fatalement surchargés. Et vous y rencontrez un militaire, un membre des FARDC, les forces armées congolaises. Il doit se dissimuler en civil pour être admis dans un hôpital. Comment ça se passe? Comment les hôpitaux font-ils face à l'affluence des blessés?
Alors, je peux juste revenir sur les chiffres.
Oui, pardon.
Les chiffres sont très confus. En fait, 2000 morts, c'est le chiffre officiel selon les officiers congolais du gouvernement. Les chiffres n'ont pas du tout été validés par ni les ONG, ni la Croix-Rouge internationale. Le CICR a annoncé qu'ils avaient ramassé 953 corps, je crois. On n'a aucune idée du nombre de morts à Goma. Et le chiffre de 2000 morts a circulé partout parce qu'il était donc vérifié par le gouvernement congolais, mais il n'a pas du tout été accepté par les instances, que ce soit onusiennes ou d'ONG. Voilà, c'était juste pour revenir là-dessus. Et ensuite, dans les hôpitaux étaient vraiment surchargés. Je me suis rendue dans plusieurs hôpitaux. En fait, à Goma, je me suis rendue à Ndosho, donc l'hôpital de la Croix-Rouge. Et aussi dans l'autre hôpital qui est soutenu par Médecins Sans Frontières. Et là-bas, oui, on a rencontré un militaire donc, qui préfère être anonyme, qui en fait s'est changé directement. C'était pas pour être admis à l'hôpital, c'était surtout pour pas se faire assassiner, enfin tuer au moment des combats. Donc en fait, il a été blessé et il s'est directement changé pour que quelqu'un l'aide et se faire passer pour un civil pour pas être abattu par le M23 parce que les militaires étaient donc abattus par le groupe armé. Donc, c'était pas pour être admis. L'admission, évidemment, l'hôpital admet tout le monde, que ça soit des militaires, que ça soit des membres du M23. Ça, je l'ai vu à Minova, à l'hôpital de Minova. La sœur Eugénie, qui était responsable de l'hôpital, nous disait qu'elle acceptait tout le monde, que ça soit des FARDC, que ça soit des M23, que ça soit des civils. Tout le monde, évidemment, a sa place à un hôpital, c'est censé être neutre. Mais c'est plus le chemin entre le champ de bataille, si je puis dire, ou la zone où il y a des tirs, et l'hôpital où il y a plus de chances de survie en étant habillé en tant que civil.
Et d'ailleurs, vous décrivez les rues jonchées de gilets pare-balles, d'uniformes qui ont été abandonnés. Ce jeune homme que vous rencontrez n'est pas le seul à s'être défait de ses attributs militaires au moment de l'arrivée du M23. Margot Solinas, à Goma, vous tentez aussi, même si la priorité des gens est à la survie, vous tentez aussi de comprendre comment ils perçoivent l'arrivée du M23 et les avis sont partagés. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de ces perceptions et des arguments des uns et des autres, de la perception différente des uns et des autres vis-à-vis du M23.
Oui, bien sûr. Alors, à Goma, en général, il y a une crainte de parler du M23 hein, qui existe, qui est réel. Je veux dire, même pour s'adresser à des journalistes, les gens ont peur du groupe armé. Je veux dire, ils prolifèrent des menaces quand même assez souvent sur les réseaux, surtout sur des menaces de coups de fouet. Donc, y a vraiment une crainte. Alors, bon, évidemment, si on parle des familles de militaires et des anciens militaires, eux se cachent, se réfugient. Donc, ils ont réellement peur et évidemment, ils ne sont pas du tout d'accord pour le M23. Il y a d'autres gens qui. Donc, il y a cette lassitude de la guerre qui est totale à Goma, lassitude des conflits. Et il y a énormément de personnes qui sont ni d'accord ni pas d'accord, mais qui veulent juste voir leur quotidien s'améliorer et qui se disent, j'ai parlé donc à beaucoup de personnes dans les rues qui nous disaient, on attend de voir. En fait, c'est des gens qui veulent juste voir si ça va s'améliorer et qui espèrent. C'est vraiment un espoir d'amélioration du quotidien à Goma, qui n'existe pas. Mais bon, il faut savoir qu'il y a toujours de la justice populaire dans les villes de Goma. Donc le quotidien, pour l'instant, est terné toujours de colère et de violence. Et il y a aussi des gens qui sont contre le M23, alors qui sont plus discrets, que j'ai rencontrés dans des camps de déplacés, qui ont accepté de parler, donc évidemment anonymement, qui m'ont expliqué que pour eux c'est une invasion, que le M23 est soutenu par le Rwanda et que pour eux c'est donc un pays extérieur, un voisin qui les agresse. Et donc ces personnes-là ont cette opinion et ils sont nombreux aussi à le partager et eux refusent d'être occupés par le M23 comme ils le disent.
Margot Solinas, 15 jours après la prise de Goma, les soldats du M23 arrivent à Bukavu. Alors là, c'est la capitale régionale du Sud Kivu, située à la pointe sud du grand lac du même nom, le lac Kivu. Cette ville, Bukavu, est tombée assez rapidement. Dans quelles conditions ?
Alors c'est vrai qu'elle est tombée très rapidement. Je veux dire, le M23 est arrivé à Kavumu, donc l'aéroport de Bukavu qui est à une trentaine de kilomètres, le vendredi. Le samedi, toute instance juridique ou militaire a fui Bukavu, donc que ça soit les FARDC, les juges, la police, tout le monde a fui, ou alors s'est changé en civil et s'est terré dans des quartiers. Donc en fait, le M23 est rentré dans la ville. Il y a pas vraiment eu de combat. Il y a eu des tirs. Nous, on les entendait. Donc j'étais à la frontière de l'autre côté. On pouvait pas passer. On entendait beaucoup de tirs le samedi, mais c'est parce que le camp militaire Sayo a été complètement pillé. Donc les munitions et les armes également. Donc on ne savait pas si c'était des militaires qui tiraient ou des civils. Mais il n'y a pas eu de combat à l'entrée de Bukavu. Et c'est pour ça que le M23 a pu prendre la ville beaucoup plus rapidement avec moins d'effectifs. J'ai vu beaucoup moins de patrouilles de M23 circuler, contrairement à Goma, où on voyait des patrouilles vraiment à chaque coin de rue, si je puis dire.
Les soldats du M23 sont accusés d'avoir tiré sur des enfants au moment de la prise de Bukavu. Des corps d'enfants armés et en uniforme ont été retrouvés sur le bord de la route par plusieurs témoins que vous interrogez. Qu'est-ce qu'on sait exactement de ce qui s'est passé, sachant que le M23 s'est exprimé sur le sujet, ils ont démenti. Quelle information vous avez recueillie à ce sujet ?
J'ai rencontré des familles qui ont du coup perdu leurs enfants, qui ont été abattus. J'ai aussi rencontré des témoins oculaires qui étaient là aux endroits où les enfants étaient abattus, qui ont confirmé que donc pas 3 enfants selon les dires de l'ONU, mais 6 ont été abattus. Alors j'ai entendu aussi un 7e, mais j'ai eu un seul témoin, donc j'ai pas confirmé le 7e corps. Ces enfants étaient armés. Une partie était enfants de militaires et ont pillé le camp Sayo et ont récupéré les armes. Selon les témoignages, les personnes qui étaient dans ces quartiers avec ces enfants leur ont dit mais arrêtez de, enfin posez vos armes. En fait, ils tiraient en l'air, ils tiraient pas sur des gens. Alors il y a eu des balles perdues, il y a eu des blessés par ces enfants. C'était des accidents, c'était pas volontaire. Ils tiraient pas vraiment sur les gens, mais bon, ils tiraient quand même en l'air, donc il y a eu des blessés graves par rapport à cet événement. Et il y en a un seul qui, selon les vidéos que j'ai récupérées, qui disait qu'il voulait faire comme son père et défendre Bukavu. Mais le reste, en fait, ils jouaient, ils avaient 12-13 ans. Voilà, mais bon, c'est un jeu avec des armes à feu. Et selon nos témoins, oui, le M23, en fait, leur a tiré dessus parce qu'ils étaient armés. Donc, bon, c'est très complexe comme situation, mais selon tous nos témoins et les familles qui étaient là, les enfants étaient donc abattus par le M23 parce qu'ils sont, j'imagine, qu'ils se sont sentis menacés.
Vous racontez aussi la circulation des armes, l'accès aux armes lors de la fuite des militaires de Bukavu est devenu plus facile, ce qui dit quelque chose aussi de la circulation des armes. Vous racontez aussi la fuite des notables de Bukavu, les juges, les administrateurs, les fonctionnaires. C'est une ville qui a été abandonnée rapidement par les gens qui la géraient.
Bien sûr, et c'est ce qui est terrible et ce qui a mené au fait que les enfants aient pu avoir des armes. Je veux dire, des enfants, dans tous les cas, ne devraient pas avoir accès à des armes. C'est extrêmement dangereux et c'est terrible ce qui s'est passé justement par la fuite d'instances. En fait, il y a eu un chaos total dans la ville le samedi. Les réserves de nourriture, de médicaments et d'armes ont été pillées. C'était impressionnant à voir. Je me suis rendue dans des réserves alimentaires. Il y avait plus rien. Je me suis rendue dans des magasins. Tout a été pillé, tout a été brûlé. Les juges ont fui. Enfin, la police a fui. Les militaires ont fui. Tout le monde pouvait prendre ce qu'il voulait, et voilà, et c'est comme ça que, enfin, c'est ce qui a mené à ces enfants armés, ce qui est terrible, parce que c'était pas des enfants qui étaient en plus des enfants soldats. Donc il y a déjà ça qui est très important en RDC. Il y a quand même des rapports de l'ONU qui mentionnent que le M23 entraîne des enfants, donc c'est quelque chose qui est existant en RDC.
Mais c'était pas le cas. C'était pas des enfants soldats. À Goma, vous parliez tout à l'heure de la lassitude du conflit, de la lassitude de la guerre, de la posture d'attente dans laquelle sont les habitants. À Bukavu, c'est un peu différent. Vous recueillez davantage de témoignages de peur, de terreur et d'hostilité aussi au mouvement du M23, comme Albert par exemple, qui vous dit les hommes du M23 peuvent retourner chez eux ici, on ne les aime pas. Le nom a été modifié. C'est un vendeur de crédit immobile que vous rencontrez à un marché.
Oui, Albert, je l'ai rencontré à Minova, qui est la première ville du sud Kivu, après Goma. En effet, dans le sud Kivu, il y a une différence. En fait, à Goma, il y a une habitude des conflits et il y a une habitude de violence qui est un petit peu différente à Bukavu. À Bukavu, la dernière fois que la ville est tombée sous des groupes rebelles, c'était en 2004. Donc il y a quand même un peu de temps. Je veux dire, Goma a été envahi par le M23 en 2012 déjà. Bon, alors, c'était qu'une semaine, donc la situation est quand même très différente. Mais à Goma, oui, il y a une lassitude du conflit qu'il n'y a pas à Bukavu ni à Minova. Enfin, dans le sud Kivu, Sœur Eugénie, justement, qui était la responsable de l'hôpital, me disait ça va être plus difficile pour le M23 de convaincre le sud Kivu par rapport au nord, parce que on les apprécie pas de la même manière. Je dis pas qu'à Goma ils sont appréciés, mais il y a quand même une différence d'opinion qu'il n'y a pas à Bukavu. Et à Bukavu, j'ai eu plus de témoignages négatifs sur le groupe armé que j'ai pu en avoir à Goma.
Merci, merci beaucoup Margot Solinas. Vos reportages dans les provinces du Nord et du Sud qui vous sont donc à lire dans Le Figaro, dans Marianne sur Mediapart et aussi le journal belge Le Vif. On fera des liens sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup, une région qu'on va continuer à suivre. Merci d'être venu dans le Retour de terrain.
Merci à vous.
Mawana amotemai kuzungali susuteo pabotiva kolela pikama ekwe inakatia ibota ke akenae akuzungali susute tukotikala na mawana motemai.
Le chanteur congolais Lokua Kanza, originaire de Bukavu, qui dans cette chanson Moninga, sortie en 2015, évoque la perte d'un être cher. Et dans un instant, pour la seconde partie, eh bien, on reste sur le terrain puisqu'on s'intéresse aujourd'hui à l'avenir du reportage à l'international.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
C'est la première fois qu'un journaliste, un correspondant étranger accrédité par le ministère russe des Affaires étrangères, est arrêté en Russie et détenu depuis la guerre froide, vous savez, depuis l'Union soviétique. Et même à ce moment-là, je pense que c'était un cas très différent. C'était une courte détention. Alors qu'aujourd'hui, Evan est en prison depuis un an.
La journaliste Polina Ivanova qui évoquait son collègue Evan Gershkovitch. Evan Gershkovitch, journaliste américain, avait été arrêté en mars 2023 en Russie, condamné à 16 ans de prison en juillet 2024 pour espionnage, des accusations jamais étayées publiquement. Il sera finalement libéré en août dans le cadre d'un échange de prisonniers. Evan Gershkovitch, d'origine russe, voulait documenter les effets de la guerre en Ukraine sur la société russe, la répression des opposants, les soldats envoyé au front, mais aussi l'impact des sanctions. Son histoire en est une parmi tant d'autres des risques encourus par les journalistes pour exercer leur métier. Reporters sans frontières recense 550 journalistes détenus dans le monde en 2024, un chiffre en augmentation par rapport à 2023, tandis que 54 ont été tués en 2024, dont 31 dans une zone de conflit. Alors quel état des lieux aujourd'hui en 2025 de la profession de reporter? Comment documenter ce qui se passe sur les terrains inaccessibles? Que change le numérique, à la fois sur le recueil des témoignages, mais aussi sur les moyens de surveillance? Le monde est-il plus hostile à la presse ou bien a-t-il toujours été, mais de manière différente? On en discute avec nos invités, Antoine Védéguier, Clara Marchaud et Antoine Bernard de RSF. Et on commence comme chaque vendredi avec l'édito de Marc Semo.
Merci Mélanie. Alors oui, le reportage de terrain, et notamment le reportage de guerre, n'est pas plus difficile maintenant, mais il l'est autrement. Un exemple. Avant la guerre d'Ukraine, Srebrenica fut en juillet 1994 le théâtre de la plus terrible tuerie de civils en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Quelques 8000 hommes ont été exécutés de sang-froid par les forces serbes, dans ce qui fut qualifié par la justice pénale internationale de La Haye comme un génocide. Ce fut un massacre à huis clos, sans images, dont la dimension réelle n'est apparue que peu à peu avec l'arrivée des survivants dans les lignes bosniaques et leurs récits. Aujourd'hui, ça paraît inconcevable. Les journalistes ne peuvent certes pas entrer à Gaza depuis le début de l'opération israélienne en réponse au massacre du 7 octobre, mais nous sommes submergés d'images sur les morts, les bombardements, les destructions. Nous voyons et entendons en temps réel ce qui se passe grâce aux vidéos envoyées par les réseaux sociaux. Et c'est vrai d'ailleurs aussi pour l'Ukraine, où très rapidement, dès le début de la guerre, on a eu des images de Boutcha et autres lieux de massacre. Le travail même du reporter de guerre a changé. Il s'agit d'expertiser des images et d'en évaluer la fiabilité. Les drones ont aussi changé la donne en permettant une transparence inédite du champ de bataille, même si les conditions d'accès à ces images sont très restreintes. La guerre se fait aussi par l'image, au travers les images. C'est une guerre informationnelle d'images. Face à cette déferlante de le témoignage au long, en face à face, le récit circonstancié, en croisant et en recroisant les sources, n'en devient que plus fondamental. Et c'est pour cela qu'il faut aller sur le terrain, y compris au plus près de la ligne de front s'il le faut. Ce qui est malgré tout de plus en plus difficile, car après la grande expansion des démocraties dans le monde qui a suivi la chute du mur, leur nombre, en deux décennies, ne fait que régresser.
Merci beaucoup Marc Semo, autant de sujets qu'on va aborder tous ensemble, mais peut-être pour commencer, parler un peu de vos expériences à l'un et à l'autre, Antoine Védeillé, Clara Marchaud, tous les deux journalistes sur le terrain. Antoine Védeillé, vous êtes basé en Inde et vous vous êtes rendu plusieurs fois en Birmanie pour couvrir la guerre entre l'armée et les opposants. À quelles conditions est-ce qu'aujourd'hui on peut entrer et faire du journalisme en Birmanie ?
Oui, alors Marc parlait du recul des démocraties. La Birmanie a connu une transition démocratique pendant une dizaine d'années, mais depuis le 1er février 2021, c'est la junte militaire qui est de retour au pouvoir et donc elle ne délivre pas de visa aux journalistes étrangers. Donc si on veut se rendre en Birmanie pour couvrir ce qu'il est en train de se passer, on n'a pas d'autre choix qu'entrer clandestinement dans le pays. Les frontières birmanes sont assez poreuses, donc l'entrée en tant que telle dans le pays n'est pas particulièrement compliqué.
Le passage de la frontière peut se faire relativement facilement.
En tant que telle, la Birmanie est entourée de petites rivières, donc quand on veut se rendre en Birmanie depuis l'Inde, depuis la Thaïlande, depuis le Laos, il suffit d'embarquer sur un petit bateau de fortune et de traverser une petite rivière. Ce n'est pas particulièrement difficile. En revanche, ce qui est difficile, c'est toute la logistique qui conduit à l'entrée clandestine dans le pays, parce que il faut prendre des précautions, il faut bien sûr ne pas se faire arrêter par le pays que l'on est en train de quitter, donc l'Inde, la Thaïlande par exemple. Et ensuite, évidemment, il ne faut pas se faire prendre quand on arrive sur place. Et donc, ça nécessite une longue préparation et ça nécessite aussi de faire confiance à nos passeurs, parce qu'on entend souvent parler des passeurs dans le cas des migrants qui quittent leur pays. Mais nous, journalistes, quand on doit aller dans un endroit qui nous est interdit, on doit aussi faire appel à ces passeurs.
Et la confiance dans ces passeurs est évidemment fondamentale. La protection de vos communications est aussi un enjeu majeur pour préparer un reportage. Est-ce que vous parvenez toujours à garantir cette protection ? Et en face, pour le cas birman, de quels moyens de surveillance dispose l'armée birmane ?
Alors malheureusement, non, on n'est jamais sûr de ce qui va se passer. Je vous donne un exemple très concret. Je suis allé deux fois en Birmanie depuis le début de la guerre civile. La première fois, rien arrivé, on a pu entrer sans encombre. Et la deuxième fois, avec mon collègue Germain Ballet, 2 heures seulement après notre entrée en Birmanie, on a été la cible d'une très violente attaque de la junte, une attaque coordonnée avec l'aviation, des drones, des tirs d'artillerie. Alors, est-ce qu'on était au mauvais endroit au mauvais moment ? Est-ce que c'est la faute à pas de chance ? Est-ce que c'est le groupe avec lequel on était qui était visé ? Ou est-ce qu'on était visé en tant que journaliste ? On ne le sait pas, mais on peut se poser la question quand même. donc effectivement, il est important de protéger nos moyens de communication parce qu'on le sait, la Birmanie peut compter sur le soutien de la Russie et notamment de la Chine. Et la Chine qui a mis à disposition du régime birman ses moyens de surveillance, ses moyens de surveillance numérique. Et donc, on a beau protéger nos communications, éteindre nos téléphones, ne pas avoir de carte SIM, on est malheureusement jamais à l'abri et on ne sait pas dans quelle mesure c'est cet arsenal numérique mis à disposition de la junte leur permet de traquer les journalistes, les groupes armés. Et donc, en tout cas, nous, on a été la cible d'une attaque. Est-ce que c'est parce qu'on était journaliste, encore une fois? On ne sait pas, mais il faut prendre des précautions et ça en était la preuve.
Clara Marchaud, la question des communications, de la surveillance des réseaux, elle se pose aussi quand on travaille, comme vous, sur les zones occupées par l'armée russe en Ukraine. Alors je dis qu'on travaille, mais justement vous allez nous expliquer comment vous travaillez sur ce terrain qui est inaccessible depuis l'Ukraine. En janvier, l'Express publiait un long papier que vous signez « Dans l'Ukraine occupée, la terreur silencieuse » et vous essayez d'y documenter coûte que coûte la vie quotidienne telle qu'elle a basculé pour les Ukrainiens qui sont restés après l'arrivée de l'armée russe. Comment travaille-t-on sur le Donbass occupé aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'est très difficile justement de documenter et cette enquête, je l'ai faite en plusieurs mois. Ça a été extrêmement compliqué. On a aussi des limites hein, du côté ukrainien quand on travaille sur place, mais là, en fait, on peut pas. Nous, on peut pas en tant que journaliste étranger se rendre dans les territoires occupés. Il y a eu quelques journalistes étrangers qui ont pu s'y rendre plutôt en 2022, en 2023 avec des press tours, c'est-à-dire des
mais via la Russie.
Via la Russie, voilà, des journalistes qui sont souvent en Russie. Et qui peuvent justement suivre l'armée et qui sont très 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 encadrés. Donc moi ce que j'ai essayé de faire c'est justement de raconter comment les gens vivent dans 18% du territoire ukrainien, c'est-à-dire c'est des millions de personnes qui vivent sous occupation. Et en fait, comme les communications sont très surveillées, on sait qu'elles sont très surveillées, on sait que les communications téléphoniques, par exemple, impossible de passer un coup de fil, parce que c'est juste les téléphones sont écoutés. Il y a des fouilles régulières des gens qui sont restés sur place, donc de mes sources potentielles. En fait, même si moi je les appelle par une messagerie cryptée, il y a des fouilles, il y a des perquisitions, des fouilles dans la rue, des téléphones notamment. Donc en fait, s'ils voient que vous avez si les soldats russes voient que vous avez
un VPN, par
exemple. VPN ou bien une application de communication cryptée, en fait, ils vous arrêtent pour ça. Et il y a quand même 16 000 civils ukrainiens qui sont détenus en Russie selon le défenseur des droits ukrainien. Et donc en fait, moi j'avais ce risque-là de certaines personnes qui m'ont parlé, notamment à travers des proches, mais je ne peux pas expliquer exactement comment on les contacte, mais en fait, risquent leur vie pour nous donner ces informations de ce qui se passe sur place. Et on voit la différence parce qu'en 2022, je pouvais encore appeler des gens dans les territoires occupés parce que c'est des lieux où en fait je m'étais rendue avant l'invasion, où j'avais encore énormément de sources, où les gens étaient encore sur place. En fait, il y a eu un exode massif, des millions de personnes sont parties. Et donc là, on pense qu'il y aurait entre 3 millions et demi de personnes qui sont restées sur ce territoire-là. Donc en fait, juste le nombre de sources diminue, le nombre de personnes qui peuvent vous donner d'informations. Donc c'est là qu'on utilise d'autres moyens, par exemple utiliser les réseaux sociaux russes parce que les Russes publient eux-mêmes énormément de choses. Ils publient quand ils mettent en place des institutions, un hôpital, une école, ils vont faire une page Facebook dans leur Facebook russe et ils vont publier tout ce qu'ils font. Notamment, ils publient parfois des choses qui s'apparentent à des crimes de guerre. Certains aux dirigeants militaires de ce que les Ukrainiens appellent la commandature, ce qui fait référence d'ailleurs à ce que nous on avait pendant l'occupation en France, hein, c'est un mot allemand. La commandature, les militaires russes sur place, même parfois publient sur leur chaîne Telegram des vidéos de crimes de guerre, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes en train de publier des vidéos de torture, de violence et parfois de viol en fait. Donc on utilise toutes ces sources-là, mais c'est vrai qu'on est un peu aidé sur le fait que les Russes eux-mêmes publient eux-mêmes leurs crimes et ça montre aussi la culture d'impunité qu'il y a autour de ces crimes-là.
Et vous racontez aussi comment les familles qui ont été séparées continuent ou essaient de continuer à maintenir des liens via les appels téléphoniques et que dans ces appels, eh bien les gens en viennent à remplacer certains mots par d'autres, par exemple le mot guerre. Quelqu'un vous raconte qu'il a remplacé Emmanuel Moguer par le mot construction. Je ne sais pas pourquoi construction, mais en tout cas, ça dit quelque chose de très fort d'une peur de communiquer. Alors, sachant qu'ils ne parlent même pas, entre guillemets, à un journaliste, ils sont en train de parler à leurs proches et de donner des nouvelles. Et c'est aussi ça que vous racontez dans ce reportage. Antoine Bernard, en quoi est-ce que ce dont témoignent Clara Marchaud et Antoine Védélier dans leurs expériences résonne avec les récits d'autres reporters que vous côtoyez, avec qui vous êtes en contact?
Résonne immédiatement. Si on élargit un petit peu la focale, on constate à RSF que le reportage devient certes autrement difficile, la difficulté se complexifie de trois ordres. La première, c'est une répression. On peut se dire une répression politique, au fond, ça a toujours existé. Oui, le nombre de détenus est extrêmement important, le journaliste détenu est extrêmement important, le risque d'arrestation arbitraire, de détention arbitraire, il faut ajouter à ces risques la prise d'otage. Aujourd'hui, 55 journalistes détenus en otage et la disparition forcée. Aujourd'hui, 95, au moins, hein, dans les cas qu'on documente, 95 journalistes victimes de disparition forcée.
Ces chiffres-là, Antoine Bernard, ils ont changé de manière significative. Oui. Et si oui, depuis quand? Est-ce qu'il y a une bascule? Est-ce qu'il y a un moment? Est-ce que c'est il y a 10 ans, il y a 5 ans?
Dans les 5 dernières années. On voit dans les 5 dernières années le chiffre. Mais c'est pas ce que je veux ajouter, un petit élément qui est quand même pas petit, justement. C'est le fait que on constate une absence, non seulement une absence de protection, de mobilisation des États démocratiques, en soutien à la liberté de la presse, à ces journalistes en danger, mais c'est pire que ça. Dans énormément de pays désormais, le ciblage de journalistes est revendiqué. C'est politiquement utile, et ça rapporte politiquement, que de cibler les journalistes, y compris dans les États démocratiques. Et ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est l'impunité. Vous l'avez évoqué, on est à plus de 90% d'impunité des crimes contre les journalistes. Ça veut dire concrètement que les gens, ils sont mal protégés, juridiquement mal protégés, institutionnellement mal protégés, et qu'au fond, ça pèse pas lourd. Pardon, mais c'est très cynique, mais c'est une réalité qu'il faut combattre, de cibler les journalistes, y compris jusqu'au meurtre, c'est-à-dire l'homicide intentionnel, comme on l'a vu à Gaza, dans, en tout cas, 42 cas qu'on a documentés sur les 150 journalistes, au moins 150 journalistes qui sont morts à Gaza depuis le massacre du 7 octobre par le Hamas et les représailles et l'opération israélienne. Et le troisième élément, et juste très rapidement, le troisième élément, à propos du numérique, c'est pas seulement l'expansion des techniques de surveillance, des techniques numériques, c'est aussi le fait que le reportage se trouve dans une sorte de concurrence déloyale terrible avec des systèmes de désinformation extraordinairement efficaces et qui ne coûtent presque rien. Donc ça fait quand même une complexité qui est quand même plus grande et grave et importante à affronter.
Antoine Védélier, on a évoqué tout à l'heure, enfin l'un et l'autre, vous évoquiez comment vous rentriez vous accédiez ou pas difficilement à certains terrains. On a évoqué cette idée du journaliste embarqué, embed, avec donc des forces armées. Quand vous allez en Birmanie, vous êtes avec des forces armées, des guérillas. Comment est-ce que ça crée de la restriction aussi sur le recueil de témoignages, sur ce que vous pouvez dire, voir, les lieux où vous pouvez accéder? Est-ce que ça, c'est une bascule aussi, le fait de ne plus pouvoir aller des deux côtés du conflit, ce qui est quand même une règle de base, d'aller normalement des deux côtés du conflit?
Bien sûr, mais de la même façon que ça l'est quand on suit l'armée française sur des terrains où elle est déployée. Là, nous, on est avec des groupes armés, effectivement, dans le cas de la Birmanie, que la junte considère comme des terroristes. Donc nous, on a le sentiment d'être du côté de la résistance. Mais bien évidemment, il faut faire attention aussi, il faut garder une certaine distance. Il y a notamment, moi je ne parle pas birman, et il y a l'importance des traductions. C'est des choses dont je me suis rendu compte sur le terrain, c'est-à-dire que je conduis des interviews qui sont traduites par des personnes qui sont partie prenante dans le conflit, et quand je reviens en salle de montage, je me rends compte que ma question n'a pas été traduite tout à fait comme je l'espérais, et que la réponse qui m'a été donnée est très intéressante, mais sur le terrain ce n'était pas ce qu'on m'avait dit exactement. Et donc c'est évidemment très important, mais comme on vérifie des sources, on vérifie des témoignages, témoignages. Et bien évidemment, on sait que quand on est avec un groupe armé, qu'il soit entre guillemets du bon ou du mauvais côté de l'histoire, on doit faire attention et on sait que d'une certaine façon, on est manipulé aussi.
Marc, c'est bon ?
Oui. Pour revenir à ce que disait Antoine, ces difficultés de terrain, ce ciblage, a toujours existé. Une des différences, c'est qu'après la grande vague d'ouverture démocratique qui a suivi la chute du mur, il y a eu beaucoup plus de journalistes partout. Mais la vraie question, elle est ailleurs. Et il y a aujourd'hui une arsenalisation générale de l'information et de tout. Donc dans le cadre de cette arsenalisation générale, c'est-à-dire cette idée que l'information est une arme, c'est dans la logique des choses, et ce qui est tout à fait terrible, mais ça ne pourra que s'amplifier, que les journalistes soient ciblés. Parce que la guerre informationnelle est une réalité, elle est reconnue comme telle aujourd'hui, par exemple, par le ministère des armées. Ça fait partie des divers fronts. Il y a le front de la guerre informationnelle. Donc, dans ce cadre-là, cette arsenalisation générale du monde, qui est une traduction de weaponization anglais, et cela ne va pas s'arrêter. Donc, ça impose effectivement à des journalistes des choix extrêmement douloureux et difficiles. Parce qu'il est de plus en plus difficile de dire, on essaye de faire comprendre, on essaye de montrer, on essaye de croiser, on essaye justement de ne pas rentrer dans cette espèce de surenchère de propagande.
Clara Marchand, je vois hocher la tête sur les propos de Marc Semon.
Et justement, je pense que c'est pour l'Ukraine, la guerre en Ukraine et avec la Russie, où la France est quand même partie prenante en armant une des parties du conflit, la question de la guerre de l'information est réelle, et je peux même vous donner des exemples concrets du quotidien, en fait. C'est-à-dire que nous... si vous voulez, quand on regarde la production de l'information sur la guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'on a ? On a beaucoup, depuis 2022, on a beaucoup, par exemple, de commentaires, c'est-à-dire ou de plateaux, ou d'experts qui viennent commenter, par exemple, à la télévision. Pourquoi ? Parce que c'est aussi beaucoup moins cher que de produire du reportage. Et là, en fait, on est quand même dans un moment où l'industrie des médias est dans un moment compliqué parce que d'un côté, on a besoin d'apporter des informations qui sont nouvelles. Par exemple, moi, pour faire cette enquête sur les territoires occupés, j'ai reçu une bourse d'un organisme allemand qui est financé par l'UE. Parce qu'en fait, les médias n'ont pas les moyens de payer des enquêtes comme ça énormes. Qui prennent plusieurs mois. Alors que de l'autre côté, on voit, par exemple, que la Russie met énormément de moyens pour justement influencer le discours médiatique. Je parle par exemple de l'opération Doppelganger quand ils ont fait en fait des faux sites du Monde, du Figaro, avec des articles qui étaient critiques de l'Ukraine, de la guerre en Ukraine. Mais ça peut être aussi quand il y a eu par exemple des ingérences étrangères, par exemple en 2023, il y a eu un journaliste de BFM qui a été mis en examen parce que il avait poussé certains narratifs et il avait été payé pour ça en fait. Donc c'est des techniques en fait qu'on voyait en Ukraine depuis très longtemps, par exemple sur la Russie, que la Russie utilise depuis très longtemps, et on voit que de plus en plus de pays les utilisent, et ça questionne aussi notre modèle, et nous, en tant que journalistes, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à produire de l'information de qualité ?
Antoine Bernard ?
Oui, avec, je tire le fil, avec une inégalité des armes, si j'ose dire, parce que les journalistes sont des civils, par définition, alors qu'en face, on a des appareils de propagande qui sont militarisés, qui sont industrialisés, on ne devrait pas être sur le même terrain. En réalité, la guerre est informationnelle, c'est le même espace informationnel qui est global, qui est numérique, dans lequel ces différents types d'informations ou de désinformation ou de propagande se retrouvent. Donc il faut effectivement s'adapter par rapport à ça. Il y a quand même une urgence dont il faut aussi être conscient. Vous évoquez Doppelganger encore ce matin, parce qu'il y a Doppelganger, il y a d'autres opérations. Hein, Viginum fait un très bon travail d'analyse de ces opérations. Il y en a une autre qui s'appelle Matryoshka, il y en a une autre qui s'appelle Portal Combat. RSF se retrouve au cœur d'une campagne depuis le mois de juillet, dans le cadre de l'opération Matryoshka, où on nous fait tenir des propos qui relèvent en réalité de la propagande de guerre du Kremlin, à l'appui, sous couvert de fausses vidéos de la BBC, de fausses vidéos du Figaro, qui reprennent notre style RSF et nous font parler, usurpent nos images au profit de cette propagande de guerre. Donc, je le mentionne au passé parce que on n'imaginait pas être éventuellement instrumentalisé de cette façon, ce qui veut peut-être dire aussi qu'on fait du bon boulot par ailleurs. Alors justement, ça veut dire faire du bon boulot, c'est essayer d'adapter la pratique de ce journalisme à ces nouvelles conditions extrêmement difficiles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on constate dans beaucoup de pays une telle adaptation. Elle est compliquée, encore une fois, hein, parce que le jeu, la guerre est inégale, la protection juridique est mauvaise, les journalistes sont assimilés à des populations civiles, c'est une très bonne chose, ils ne sont pas autre chose. Pour autant, ils s'acquittent d'une fonction sociale et prennent des risques pour l'assumer en reportage qui ne sont absolument pas protégés juridiquement à due proportion de cette fonction et de ses risques. Donc c'est aussi un point important.
Oui, juste, Marc Semeau parlait tout à l'heure du tournant autoritaire qui touche de plus en plus de pays et qui contribue à rendre évidemment l'information et le travail compliqué. Je voudrais qu'on s'arrête sur le cas de l'Inde où vous vivez, Antoine Védeillet, qui n'est pas un terrain de guerre. Là, on est sur un pays en paix où néanmoins la condition de travail devient compliquée. Et il faut peut-être parler de cette affaire en 2023. Les autorités indiennes ont cherché à interdire par tous les moyens la diffusion d'un documentaire de la BBC qui tentait de faire la lumière sur la responsabilité des autorités indiennes dans les pogroms anti-musulmans de 2002 dans le Gujarat, qui était dirigé à l'époque par Narendra Modi. Vous faisiez partie de l'équipe, Antoine Védeillet, de la production de ce documentaire. Quelles ont été les conséquences pour vous des tentatives d'interdire la diffusion?
Ce qui s'est passé, donc, c'est une enquête qu'on a menée effectivement avec la BBC pendant 2 ans. On n'a pas eu de difficultés sur le terrain à la réaliser, c'est-à-dire qu'on a pu interviewer les personnes qu'on souhaitait interviewer, on a pu filmer sans difficulté. En revanche, avant la diffusion, la BBC a donné bien évidemment un droit de réponse au BJP, le parti au pouvoir de Narendra Modi, à Narendra Modi, à Amit Shah, qui est le ministre de l'Intérieur et qui était en poste à l'époque aussi dans le Gujarat. Bien évidemment, personne n'a voulu répondre et participer, faire le contradictoire finalement qui leur était offert. Et donc, à partir de là, il y a eu une campagne de dénigrement contre la BBC. Le gouvernement indien a tenté par tous les moyens d'interdire la diffusion. Des pressions ont été exercées à Londres sur la BBC par l'ambassade d'Inde. Et ensuite, au moment où la BBC a diffusé le documentaire, qui était en 2 parties, il y a eu une chasse, c'est le terme, sur Internet, sur les réseaux sociaux, aux vidéos qui étaient postées, qui montraient le reportage. Des personnes qui les relayaient sur leur site ont été intimidées, certaines ont été arrêtées. Des groupements étudiants, des associations, des ONG ont tenté de diffuser le reportage lors de soirées de diffusion, le documentaire. Ces soirées ont été interdites et donc ensuite la BBC a fait l'objet d'une enquête du service des taxes et des impôts indiens, et c'est ce qui est fait généralement quand on veut étouffer une affaire. Les bureaux de la BBC à New Delhi et à Bombay ont été perquisitionnés.
Il y a eu un avant et un après cette affaire.
Il y a eu un avant et un après.
Inde.
Moi, la police, alors j'étais pas là, la police est venue sonner au bureau, la police est venue sonner chez moi. Il y a vraiment une pression. L'Inde se targue d'être la mère des démocraties et la plus grande démocratie du monde. C'est une démocratie, certes, mais imparfaite. Et dans le cadre de la liberté de la presse, et ça a été documenté régulièrement par RSF, on observe bien évidemment un recul. Il y a des zones où, en tant que journaliste étranger, on ne peut plus se rendre. Je pense au Cachemire. Moi, j'ai fait plusieurs demandes pour des reportages, d'ailleurs, qui n'étaient pas du tout sensibles, absolument pas. Et alors, on nous laisse faire cette demande, mais on n'obtient jamais le laissez-passer.
Marc Semeau.
Oui, alors, pour revenir toujours à la désinformation, il y a les cas caricaturaux. Rocha Today, Margaret Simonian, disons, la télévision, c'est comme une division blindée. Mais sinon, où est-ce qu'on situe le curseur entre le journaliste engagé, le journaliste propagandiste et la structure même d'un journalisme militaire arsenalisé, militarisé au dernier degré.
Antoine Bernard.
Ah mais nous, on la situe très clairement, le fait qu'on est journaliste quand on s'astreint à une méthodologie qui implique, un, la vérification, deux, la rectification, trois, l'engagement d'une responsabilité, quatre, la protection des sources. Et vous avez 66 rédactions russes en exil aujourd'hui qui sont composées de confrères qui s'astreignent à cette méthodologie, qui revendiquent d'être ainsi distingués de propagandistes
pour
comme
la presse française, certaines télévisions.
Bien sûr. Cette même rigueur, cette honnêteté, cette exigence de pluralisme externe et interne et d'indépendance, je me réfère ici, puisqu'on revient à la France, à une terminologie constitutionnelle et législative, devrait s'appliquer également, évidemment, en France. Vous connaissez les actions d'RSF dans ce domaine. Non, je voudrais juste tirer le fil sur ces rédactions russes indépendantes que j'évoquais, les 66, parce qu'en 2 ans et demi, elles ont dû fuir la Russie après un amendement législatif scélérat adopté le 4 mars 2022. En 2 ans et demi, elles ont vraiment commis l'exploit de se reconstituer en exil, en particulier au sein de l'Union européenne, pour obstinément pouvoir continuer à toucher leur audience en Russie. Et elles y parviennent. Et elles y parviennent au prix d'une adaptation à ces difficultés qu'on évoque, extraordinaire, avec des réseaux et des sources en Russie, avec une audience réelle, avec des miroirs à créer absolument tous les jours. Je vois pour Medusa, qui est un de ces médias, on a créé en 18 mois, on leur a créé 12 000 miroirs pour résister.
Un miroir.
Un miroir, c'est un site internet, une copie du site internet du média, permanente, cette copie, qui permet à l'audience du média de continuer d'accéder au site internet sans interruption. C'est une véritable course contre la censure. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres de ces adaptations. J'évoque les médias russes, mais on pourrait parler des médias birmans. Antoine les connaît bien. À Chiang Mai, on a ouvert un petit centre. On s'est aperçu que beaucoup de journalistes birmans qui s'étaient retrouvés à Chiang Mai, donc de l'autre côté de la frontière, en réalité ne se considéraient certainement pas comme des exilés, mais comme des déplacés forcés, et ils continuent à retourner en Birmanie pour faire leur boulot. Et on a découvert qu'ils le faisaient évidemment dans des conditions absolument terribles. Donc on a monté ce petit centre pour essayer de les aider à s'équiper pour pouvoir faire leur boulot. Ça, c'est remarquable. Et ça, c'est vraiment des motifs d'espoir extraordinaire.
Faire du journalisme en Russie, maintenir la formation en Russie, c'est évidemment un des enjeux. Et aujourd'hui, on peut encore faire du journalisme en Russie. Il y a des journalistes français, par exemple, qui sont à Moscou, qui sont en poste, qui continuent à travailler. Je voulais citer le témoignage qu'a fait parvenir publiquement le journaliste Paul Gogo, journaliste indépendant, qui récemment a témoigné sur les réseaux sociaux des difficultés croissantes. Alors là, d'ordre administratif, visa, financière également, etc., qui petit à petit grignote sur sa liberté, puisqu'elles lui prennent énormément de temps et qu'elles sont coûteuses, dit-il, pour sa santé. Voilà, je voulais juste faire entendre ce témoignage. Clara Marchaud, sur la question de la Russie. Alors, vous, depuis l'Ukraine, en suivant l'armée ukrainienne, on parlait toujours encore tout à l'heure du journaliste embarqué, en suivant l'armée ukrainienne, vous êtes allé dans la région de Koursk, vous étiez venu dans un retour de terrain pour en parler, mais franchir la frontière à ce moment-là était considéré par la Russie comme un acte illégal, et certains de vos confrères ont été poursuivis, des Italiens, des Allemands. Qu'en est-il pour vous, et quel risque avez-vous pris à ce moment-là par rapport au pouvoir russe?
Oui, alors ça, je ne sais pas, peut-être que Antoine Bernard pourra nous le dire, hein, si c'est un précédent, mais de poursuivre des journalistes parce qu'ils se sont rendus sur un territoire. Là, par exemple, la Russie nous accusait d'avoir franchi illégalement la frontière en ayant travaillé dans la région de Koursk, qui était alors occupée par l'armée ukrainienne. En droit international, nous, on a le droit d'aller travailler en Russie, même avec une armée d'occupation. C'est d'ailleurs ce que mes collègues en Russie font quand ils suivent des presse-tours de l'armée russe. Donc en droit international, nous avons le droit de faire ça, mais c'est vrai que la Russie a commencé à menacer les journalistes sur place, et puis à lancer des poursuites pénales. Donc notamment contre des journalistes, il y a eu en France, il y a eu France 24, il y a eu aussi la RAI, il y a eu Deutsche Deutsche Welle en Allemagne, donc surtout des médias publics d'ailleurs. Moi par exemple, et tous mes collègues en fait, on a tous reçu des menaces indirectes, comme quand on était sur liste noire du Kremlin. Mais juridiquement ça ne veut rien dire. Il n'y a pas eu en fait de... Pareil, ils ont menacé de lancer des mandats d'arrêt contre ces journalistes pour ces poursuites, de nous mettre sur Interpol. C'est-à-dire qu'on aurait pu potentiellement être considéré comme... on aurait été considéré comme des terroristes et potentiellement être arrêté dans un pays tiers. C'est pas quelque chose qu'ils ont fait. Mais c'est vrai que...
Mais ça relève de la palette de...
Ça nous a empêché en fait de... Ouais. Ça rendait extrêmement compliqué le fait de se rendre sur place. Et moi, je trouve ça dommage parce qu'en fait, ça nous a vraiment empêché de se rendre plus librement sur place, parce que l'armée ukrainienne, pour le coup, nous laissait... on avait des possibilités d'y aller, de travailler, comme d'ailleurs on le fait dans n'importe quel endroit de la ligne de front, en fait. Donc, c'était... je pense que sur Kursk, du coup, il y a eu une couverture très limitée. Et d'ailleurs, la plupart des médias internationaux, et pas seulement les Français d'ailleurs, même les Américains, beaucoup de médias, en fait, ont évité de se rendre à Kursk, ou parfois ont décidé de ne pas se rendre sur place, justement pour préserver leurs correspondants qui étaient encore en Russie. C'est-à-dire pour éviter qu'il y ait des mesures de représailles. Par exemple, sur la couverture, mais encore une fois, pas seulement en France, il y a eu peu de couverture sur cette opération-là. Alors que moi, ce qui m'intéressait quand je m'étais rendue sur place, c'était de savoir justement comment les Ukrainiens traitent les civils, qu'est-ce qui se passe sur place, est-ce qu'il y a beaucoup de destruction. Et là, en fait, on a été bloqués pour ces raisons de menaces.
Et comme le disait Antoine Védeillé, là aussi, vous devez aussi jouer sur... Alors, vous parlez russe et ukrainien, ce qui facilite les choses, mais vous devez aussi louvoyer un peu pour ne pas être prise dans les restrictions de ce que l'armée ukrainienne veut bien vous montrer ou pas vous montrer. Et vous racontiez, on remettrait un lien, comment vous accédiez aux témoignages de prisonniers russes directement en dehors d'un encadrement. Il nous reste juste quelques instants, on n'a pas eu le temps de le parler, mais la question de la précarité des journalistes est aussi un sujet extrêmement important. Tout le monde n'est pas correspondant CDIsé d'une rédaction pour partir à l'étranger. Comment est-ce que ça pèse? Le journalisme de guerre, ça coûte cher. L'équipement, ça coûte cher. Les assurances également, quand on en prend. Comment est-ce que ça pèse sur vos décisions de partir à un endroit ou pas, aussi, Antoine Védeillé?
De façon très courte, là, j'ai envie de repartir en Birmanie, dans la région de Mandalay, où il pourrait y avoir une prochaine grande bataille et un tournant peut-être définitif dans la guerre. Sauf que il faut au moins une semaine pour se rendre sur place et donc une semaine pour rentrer, avec les risques que ça implique, et donc ça coûte extrêmement cher. Et pour l'instant, financièrement, la mission n'est pas viable, tout simplement, en tant que journaliste indépendant.
Un marchand, en un mot.
En un mot, moi j'ai de la chance, je fais partie des happy few qui peuvent justement financer ces journalistes parce que j'ai une rédaction, mais je sais que c'est un énorme problème en Ukraine. Comment on finance ces reportages? Et justement, Paul Gogo le disait pour la Russie, sur comment est-ce qu'on peut continuer de travailler avec ce manque de moyens.
Merci infiniment à tous les trois, Antoine Védeillé, Clara Marchand. On fera des liens vers vos reportages récents, vos productions documentaires sur la page de Culture Monde. Je rappelle simplement votre ouvrage, Clara Marchand, Ainsi long mois de février, histoire intime de la guerre en Ukraine, paru aux éditions Plein Jour. On mettra également, Antoine Bernard, des liens vers les derniers rapports de RSF. Merci également d'être venu dans l'émission. Et puis je signale aussi que la chaîne Arte met à l'honneur le reportage à l'occasion de la 1000e édition de son magazine Arte Reportage, dont on reçoit régulièrement les reporters dans le retour de terrain, et que le lien vers la discussion qui a eu lieu entre RSF et Arte Reportage au Forum des images cette semaine est en ligne. On fera un lien également. Merci beaucoup Marc Semo. On se retrouve la semaine prochaine. Et lundi, c'est Julie Gacon que vous retrouvez pour une série consacrée aux guérillas. Après l'annonce de la dissolution du mouvement kurde du PKK, il sera question de la démobilisation des groupes armés, la fragile réinsertion des anciens FARC en Colombie, les programmes de désarmement de l'ONU dans les Balkans et en Afrique, de la conversion politique des vétérans de l'IRA en Irlande du Nord. Et on commence évidemment lundi avec le PKK. Et dans un instant, les midis de Culture.